Le psaume 139 au verset 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Vois si je suis dans une voie d'injustice et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Bonjour à tous, frères et sœurs. On a encore la bénédiction de pouvoir profiter des heures sacrées du sabbat. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ce qu'on voudrait faire encore une fois, c'est poursuivre notre méditation sur l'appel qui est placé devant nos yeux de la gloire de Dieu. Car ce que Dieu appelle, il les justifie, et ce qu'il justifie, il les glorifie, tel que nous l'avons lu à plusieurs reprises dans le passage de Romains chapitre 8. Comme nous l'avons lu dans notre lecture biblique, aujourd'hui, nous demandons à Dieu de nous sonder, de connaître notre cœur, de nous éprouver, de connaître nos pensées, de voir si nous sommes dans une voie d'injustice et de nous conduire dans la voie de l'éternité. Vous savez, je me suis souvent demandé en lisant ces paroles, quel pourrait être le but pour Dieu de me sonder, de m'éprouver et de connaître mes pensées. Dieu ne connaît-il pas déjà nos pensées? Dieu n'est-il pas déjà omniscient? Alors quel est donc le but pour lui de sonder nos pensées, de nous éprouver? Eh bien, c'est ce que nous avions vu dans notre précédente méditation, où nous avions considéré attentivement le fait que en ce jour du jugement, en ce jour antitypique des expiations, Dieu est en train de nous mesurer. C'est ce que nous avions vu, nous étions parvenus à cette conclusion sensée et logique et biblique à partir de notre étude. Et nous sommes arrivés à un certain moment à ce passage du commentaire biblique d'Ellen White, à la page 1922. Et nous y avons lu là, vous vous souviendrez, que le grand jugement est en train de se dérouler. Et cela depuis un certain temps. Maintenant, aujourd'hui, le Seigneur dit, et là, elle cite les paroles d'Apocalypse 11 que nous avions lues. Mesure le temple de Dieu et l'autel et ceux qui y adorent. Puis elle poursuit. Souvenez-vous que lorsque vous parcourez les rues, vaquant à vos affaires, Dieu vous mesure. Que lorsque vous accomplissez vos devoirs domestiques ou lors de vos conversations, Dieu vous mesure. Rappelez-vous que vos paroles et vos actes sont photographiés dans les livres du ciel, tout comme l'artiste reproduit le portrait sur la toile. Voilà l'œuvre qui est menée à bien. Le temple et ceux qui y adorent sont mesurés pour voir quels sont ceux qui demeureront fermes au dernier jour. Donc ça nous donne un indice sur quelle est cette activité de Dieu lorsqu'il est écrit qu'il nous sonde et nous mesure. En ce jour du jugement, Dieu nous mesure et Dieu nous éprouve. Et l'activité nécessaire en ce temps du jugement, du grand jugement, du jugement antitypique des expiations, nous sommes appelés à nous rappeler que nos paroles, nos actes sont photographiés dans les livres du ciel et donc à considérer. Et je vais maintenant lire une citation de l'esprit de prophétie qui nous permet, en résumé, de revenir sur les choses que nous avions vues précédemment. Cette citation, elle se trouve dans La tragédie des siècles, à la page 532, au paragraphe 2. Je lis. Nous vivons à l'époque du grand jour des expiations. Dans le culte mosaïque, pendant que le souverain sacrificateur faisait l'expiation pour Israël, chacun devait se repentir de ses péchés et s'humilier devant le Seigneur, sous peine d'être retranché de son peuple. Maintenant, de même, pendant les quelques jours de grâce qui restent encore, tous ceux qui veulent que leur nom soit maintenu dans le livre de vie doivent affliger leur âme devant Dieu, ressentir une véritable douleur de leur péché et faire preuve d'une sincère repentance. Un sérieux retour sur soi-même est nécessaire. Et ici, la traduction littérale de cette dernière phrase, c'est « Il nous faut sonder sérieusement et profondément nos cœurs. » Et donc, cela revient à notre lecture biblique où nous avons lu, où nous lisions et nous disions à Dieu « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. » Donc qu'est-ce que c'est? Il nous faut sonder sérieusement et profondément nos cœurs. Donc cette œuvre relève de notre activité et de notre effort en coopération avec l'effort et l'activité de Dieu en ce jour du jugement. De même que les Hébreux, au temps du jour des expiations typiques, devaient chacun se repentir de leurs péchés et s'humilier devant le Seigneur sous peuple d'être retranchés, maintenant, pendant les quelques jours de grâce qui nous restent encore, si nous voulons que notre nom soit maintenu dans le livre de vie, il nous faut affliger nos âmes devant Dieu, ressentir une véritable douleur, une douleur de nos péchés, et faire preuve d'une sincère repentance, d'une véritable repentance. Un sérieux retour sur nous-mêmes est nécessaire. Il nous faut sonder sérieusement et profondément nos cœurs. Et nous trouvons cela, cet appel, dans 2 Corinthiens, chapitre 13, au verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 13, au verset 5. Et c'est exactement le message que nous communique la Bible. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous point vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Donc en ce temps-ci, dans lequel nous vivons, alors que nous sommes appelés à rendre à Dieu la gloire, comme c'est écrit dans le premier ange d'Apocalypse 14, alors que nous sommes appelés à rendre à Dieu la gloire parce que l'heure de son jugement est venue, appelés à lui rendre gloire quoi que nous fassions, que nous mangions, que nous buvions, que nous parlions, que nous nous habillions, à ce moment-là, nous avons besoin d'examiner nos cœurs à la source. Parce que c'est possible de nous efforcer en étant des chrétiens consciencieux, il est possible malgré tout que nous nous efforcions de boire à la gloire de Dieu, de manger à la gloire de Dieu, de parler à la gloire de Dieu, de marcher à la gloire de Dieu, d'étudier à la gloire de Dieu, mais malgré tout, de ne nous être pas examinés d'une manière telle que nous vivions véritablement en partant du cœur à la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit « Examinez-vous vous-même et éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous point vous-même que Jésus-Christ est en vous ?» Donc il demande que cette parole du psaume 139 que nous lisions avant, que ça ne soit pas juste une parole en l'air où nous demandons à Dieu de faire tout pour nous, mais il dit, non, non, vous examinez vous-même et vous vous éprouvez vous-même. Et dans le psaume, il y avait écrit, connais mes pensées, et l'apôtre dit, ne reconnaissez-vous point vous-même que Jésus-Christ est en vous? Donc c'est cet appel, parce que dans notre série, où le thème, qui est le thème de la vérité présente et que nous devons rendre gloire à Dieu, eh bien, dans ce sujet de rendre à Dieu la gloire, à la fois dans la Bible et dans l'esprit de prophétie, il est de multiples branches qui s'attachent à ce tronc sur lesquels nous pourrions nous concentrer sans fin, et ces branches sont essentielles pour notre compréhension de l'adventisme véritable du septième jour, mais si nous nous concentrons sur ces aspects de la foi adventiste, de la véritable foi qui a été donnée une fois aux saints, eh bien notre danger, c'est que nous allons nous concentrer sur les choses à faire et à ne pas faire, et nous allons manquer le centre autour duquel toutes ces vérités orbitent. Et donc, nous voulons dès maintenant aller directement à la source de nos motivations, de nos motifs intérieurs, de nos desseins, de nos plans, de ce qui nous anime pour faire ce que nous choisissons intelligemment de faire. Nous voulons aller à la source et donc nous posons la question véritablement de toute notre sincérité à nous-mêmes. Christ est-il en moi? Et vous savez, c'est le genre de question qui vraiment nous place dans une position vraiment inconfortable. Parce qu'on ne veut pas se poser la question. On veut vivre une religion légaliste où nous faisons tout ce que nous acceptons comme étant droit, étant juste, étant digne de toutes nos énergies, mais nous n'allons pas véritablement à la source, aux racines véritablement de notre expérience religieuse, parce que nous ressentons que si nous y allons, Dieu va nous éprouver et il va nous amener et nous forcer à remettre en question notre expérience religieuse. Mais on ne veut pas rester dans une position confortable simplement parce qu'elle est confortable et éviter ces moments douloureux où Jésus se présente à nous et nous montre dans le miroir de sa loi à quoi nous ressemblons réellement. Mais on veut savoir parce qu'on a dit à Dieu, on a fait ce choix en lui disant « Sonde-moi, ô Dieu, et éprouve-moi, et connais mes pensées, et fais-moi connaître la teneur de mes pensées à moi-même. » C'est l'essence du message des trois anges. L'essence en toute réalité concrète dans notre expérience de tous les jours. C'est cela que nous voulons. Et donc pour cela, ce qu'on veut faire maintenant, c'est aller dans le livre « Message choisi » volume 1, à la page 454, au paragraphe 1, et y trouver une illumination de l'esprit de prophétie par laquelle nous allons voir que Dieu nous montre la teneur d'une religion où Jésus n'est pas en nous, mais que nous faisons les choses qui sont bien parce que nous pensons et nous croyons et nous avons été convaincus que ce sont les choses qu'il faut que l'on fasse. Je lis Message choisi, volume 1, page 454, paragraphe 1. Une religion légaliste a été considérée comme normale pour notre temps. Mais c'est là une erreur. Le reproche adressé aux pharisiens par Christ est applicable à ceux qui ont perdu leur premier amour. Une religion froide, légaliste, n'amènera jamais des âmes à Christ étant dépourvue d'amour et sans Christ. Quand des jeûnes et des prières sont pratiqués dans un esprit de propre justice, ils sont en abomination aux yeux de Dieu. Les assemblées de culte solennel, le cycle des cérémonies religieuses, une humiliation de façade, un sacrifice imposé, tout ceci proclame au monde que celui qui fait ces choses se considère comme juste. Ces choses ont pour but d'attirer l'attention sur celui qui s'impose des devoirs rigoureux, comme pour dire en voilà un qui mérite le ciel. Mais tout cela n'est qu'illusion. Donc, si nous faisons l'effort de faire les choses que nous savons être justes, les assemblées de culte solennel, le cycle des cérémonie religieuse, une humiliation de façade parce que nous savons qu'il faut s'humilier, donc en façade nous mettons cette humiliation, nous la portons sur le visage comme pour ainsi dire. Et tout ceci, l'esprit de prophétie nous dit, proclamons au monde que celui qui fait ces choses se considère comme juste. Parce qu'on a envie de faire ce qui est juste, donc on va faire les choses qui sont justes, mais nous ne sommes pas animés par le motif, la motivation intérieure qui est juste. Et donc ce qu'on veut faire vraiment quand on lit ces choses qui sont effrayantes et qui ne sont qu'une illusion, c'est fuir et échapper à cette illusion de notre propre justice. Et on veut nous assurer que Christ est en nous. et voir ce que cela veut dire que Christ est en nous. Et si nous concluons que Christ n'est pas en nous, à la lumière de ce que nous allons apprendre, nous voulons nous assurer qu'il sera et que nous l'aurons en nous. Parce que on nous dit qu'une religion légaliste n'est pas normale et que c'est une religion froide qui n'amènera jamais des âmes à Christ étant dépourvue d'amour et sans Christ. Et donc nous continuons dans l'esprit de prophétie encore une fois pour élargir cette pensée où nous apprenons qu'une cette religion légaliste est le signe que nous avons perdu notre premier amour. Et nous allons pour cela dans le livre « Puissance de la grâce » à la page 22 au paragraphe 4. Et ici, l'esprit de prophétie traite de ce problème où par nature nous voulons faire ce qui est juste, mais à cause de notre nature pécheresse et déchue, nous allons nous efforcer de nous y prendre de la mauvaise manière parce que le cœur pécheur est trompeur par-dessus tout et il prendra inévitablement le dessus si nous ne sommes pas dans un esprit constant de vigilance pour le mettre constamment à bas et entrer dans cette expérience qui est présentée ici dans cette citation. Puissance de la grâce, page 22. Le cœur est naturellement mauvais. Pour que les eaux jaillissant du cœur soient pures, il faut que leur source soit purifiée. Donc les eaux qui jaillissent de notre cœur, ce sont toutes les choses qui jaillissent de nous, toutes les choses que nous faisons. Mais à moins que notre cœur, que la source de notre cœur ait été purifiée et qu'elle soit en permanence purifiée, le danger c'est que les sources qui jaillissent de notre cœur ne seront pas pures. Et que les œuvres, nos œuvres, quand bien même à l'extérieur, elles nous paraissent justes et elles nous paraissent appropriées et elles nous paraissent en harmonie avec les exigences de la Bible et de l'esprit de prophétie, quand bien même elles nous paraissent justes, il se pourrait qu'elles soient tachées de notre propre justice froide et légaliste et qu'elles ne puissent véritablement être agréables à Dieu. Je poursuis. Celui qui s'efforce en observant la loi d'atteindre le ciel par ses propres œuvres entreprend une chose impossible. Et là, tout adventiste du septième jour se mettra tout de suite à écrire « Mais je sais que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. » Sauf que quand bien même nous comprenons cette vérité en théorie, notre cœur est trompeur d'une telle manière et à un tel point que nous ne réaliserons pas que nous sommes en train de faire la chose même que nous n'approuvons pas en théorie. Vous voyez, c'est pour cela que nous avons besoin d'aller à la source et nous sommes véritablement bénis d'avoir les déclarations et les directions de l'esprit de prophétie qui nous permet de voir les travers où nous ne sommes plus sous le sentier étroit parce que nous avons été trompés par notre cœur qui nous trompe et par lequel nous nous méprenons. Je poursuis, il n'y a point de salut pour qui n'a qu'une religion légale, une simple forme de piété. Donc il n'y a pas de salut pour ce genre de religion, pour une personne qui a ce genre de religion, qui fait, qui participe aux assemblées de culte, qui pratique les cérémonies religieuses et qui met sur son visage une humiliation de façade. Il n'y a pas de salut pour une telle personne qui n'a qu'une simple forme de piété. Mais ensuite, on nous dit que la vie chrétienne n'est pas seulement une modification ou une amélioration de la vie ancienne, c'est une transformation de nature. Il doit y avoir une mort au moi et au péché et une vie entièrement nouvelle. Donc, cela nous rapproche des réponses que nous recherchons. Nous allons à la source pour estimer et reconnaître si Christ, si Jésus est en moi. Et dans notre effort pour parvenir à une réponse claire et précise et illuminatrice, on voit que la vie chrétienne n'est pas seulement une modification ou bien une amélioration de la vie ancienne, c'est une transformation de nature. Une mort au moi et au péché et une vie entièrement nouvelle. Et donc, à la lumière de ce passage, maintenant, lorsque nous suivons attentivement ces conseils-là de l'inspiration, le Seigneur répond à notre prière. Celle que nous avions priée dans le psaume 139. Nous y repartons. Pour nous rafraîchir la mémoire, le psaume 139, versets 23 et 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, vois si je suis dans une voie d'injustice et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Donc, nous voulons que Dieu nous sonde, qu'il connaisse mon cœur et qu'il connaisse mes pensées et qu'il voie si je suis dans une voie d'injustice et qu'il me conduise dans la voie de l'éternité. Et maintenant, nous réfléchissons et nous nous demandons comment est-ce que Dieu va répondre à cette prière. Et pour obtenir la réponse à cette prière, nous allons maintenant dans le livre Conseil à l'Église, à la page 148, au paragraphe 6. Et ici, ça nous permet de définir, de comprendre si Jésus est bel et bien en nos cœurs. Il est écrit « Beaucoup de gens prétendent être du côté du Seigneur, mais leurs actions prouvent qu'ils sont du côté de Satan. » Qui peut décider de quel côté nous sommes? C'est notre question. On veut savoir comment est-ce que nous pouvons savoir véritablement de quel côté nous sommes. Et il est écrit, qui a notre cœur? À qui appartiennent nos pensées? De qui aimons-nous nous entretenir. Pour qui sont nos plus chaudes affections et nos meilleures énergies? Si nous sommes du côté du Seigneur, nos pensées lui appartiennent et il nous inspire les plus doux sentiments. Le monde n'est pas notre ami. Nous avons tout consacré à Dieu. Nous désirons lui ressembler. Nous voulons être animés de son esprit, faire sa volonté et lui plaire en tout point. Donc, comment est-ce que nous saurons si Jésus est dans nos cœurs quand nous nous examinons? Comment est-ce que nous déciderons de notre réponse à cet appel de l'apôtre sous inspiration? L'esprit de prophétie nous dit que c'est en répondant à cette question. Qui a notre cœur? À qui appartiennent nos pensées? Donc c'est très concret. Dans ma vie de tous les jours, où est-ce que mon cœur est situé? Et vers où tendent mes pensées? Et pour qui sont mes plus chaudes affections et mes meilleures énergies? Considérons, frères et sœurs, parce que c'est très important. Est-ce que mes meilleures, mes plus chaudes affections et mes meilleures énergies sont pour les choses que j'achète? Est-ce qu'elles sont pour une personne que je chéris en mon cœur? Est-ce que mes plus chaudes affections sont pour moi-même? Est-ce que mes plus chaudes affections sont pour mes opinions? Vous voyez, ce sont les choses qu'il nous faut examiner quand on nous dit que nous devons nous examiner nous-mêmes. Nous n'avons pas été laissés dans l'obscurité. Dieu nous a donné ses conseils pour nous éprouver, éprouver nos pensées et éprouver nos affections et nous montrer de quoi nous sommes vraiment faits. Donc, qui a mon cœur lorsque je passe les heures de la journée, quelles que soient mes activités, qui a mon cœur? Où se dirigent mes affections? Est-ce que à chaque fois que je me retrouve dans une difficulté, mes affections se retrouvent comme attirées comme un aimant vers les choses de ce monde, comme si ces choses allaient me donner du réconfort? Est-ce que mon cœur est avec des choses qui passent ou des choses qui ne sont pas vraiment importantes, mais vers lesquelles Satan attire mon attention pour me détourner de Jésus? Donc vous voyez que on veut savoir qui a notre cœur. C'est une question qui est importante parce que c'est la question essentiel en ce jour du jugement, parce qu'on peut changer toutes nos habitudes sur le plan extérieur, participer à toutes les assemblées de culte, pratiquer toutes les cérémonies religieuses qui sont en harmonie avec les enseignements de la Bible, etc., etc. Mais si Jésus n'a pas mon cœur, si je fais toutes ces choses extérieures qui nous sont bel et bien exigées de la part de Dieu, mais que je ne les fais pas par amour complet et enflammé pour Dieu, alors ces choses ne sont pas agréables à Dieu. Et donc, nous lisons que si nous sommes du côté du Seigneur, nos pensées lui appartiennent et il nous inspire les plus doux sentiments. Et nous pouvons être soit réprouvés par ses paroles et se sentir abandonnés, ou nous pouvons prendre courage et en tirer la consolation que Dieu nous y a réservée. Regardez ces paroles. Si nous sommes du côté du Seigneur, nos pensées lui appartiennent, c'est-à-dire que nous nous affectionnons à lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous inspire les plus doux sentiments. Vous voyez, nous sommes appelés à coopérer avec Dieu. Et Dieu ne fera pas pour nous notre part de coopération. Mais nous sommes également instruits dans Éphésiens chapitre 2 que nous sommes son ouvrage. Donc cela veut dire que il nous inspire les plus doux sentiments si nous mettons notre volonté du côté de ce que nous savons être juste. Et si nous nous sentons impuissants, c'est véritablement normal, mais nous sommes appelés à mettre notre volonté du côté du Seigneur, à lui donner notre cœur, et il nous inspirera les plus doux sentiments. Nous avons tout consacré à Dieu, nous désirons lui ressembler, nous voulons être animés de son esprit, faire sa volonté et lui plaire en tout point. C'est comme cela que nous savons si Christ est bel et bien en nous. Donc nous voulons attentivement considérer ces éléments, encore une fois. Le monde n'est pas notre ami. Nous avons tout consacré à Dieu à qui nous désirons ressembler. Nous voulons être animés de son esprit, faire sa volonté et lui plaire en tout point. Donc il s'agit de mettre notre cœur du côté du Seigneur. Donc quand on nous dit et quand nous sommes exhortés à nous examiner nous-mêmes, à nous éprouver nous-mêmes, ce n'est pas pour nous décourager nous-mêmes si nous avons conclu que nous ne réussissons pas à ce test, mais c'est pour que nous suivions les conseils de Dieu pour remédier à notre problème si nous en discernons un. Et donc maintenant on se demande, parce que si nous nous sommes conditionnés à cette religion légaliste et froide qui est dépourvue d'amour et qui est sans Christ, eh bien, quand nous lisons qui a notre cœur, naturellement, nous serons enclins à pousser un cri intérieur de rébellion en disant « Mais pourquoi je dois donner mon cœur à toi ?» C'est honteux de le dire à la lumière du ciel, mais c'est la réponse naturelle de l'homme charnel. Et donc, dans la parole, nous trouvons ce qui nous anime et nous trouvons la raison pour laquelle les apôtres pouvaient dire à ceux dont ils savaient qu'ils étaient animés d'une flamme intérieure et vivante d'amour pour Jésus-Christ, nous pouvons, comme eux, être animés de cette même flamme. Parce que dans la parole, nous voyons une manifestation de l'amour de Dieu qui, pour reprendre les paroles de l'apôtre, nous contraint. Et pour cela, pour voir et considérer cette manifestation, nous allons dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, à partir du verset 6. Donc nous demandons, pourquoi est-ce que je veux lui donner mon cœur? Pourquoi doit-il avoir mon cœur? Et nous lisons, car lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort en son temps pour des impies. Car à peine mourrait-on pour un juste, peut-être se résoudrait-on à mourir pour un homme de bien? Mais Dieu fait éclater son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Étant donc maintenant justifiés par son sang, à plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant déjà réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions même en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons maintenant obtenu la réconciliation. Donc nous lui donnons notre cœur parce qu'il s'est donné premièrement lui-même pour nous. Nous lui donnons notre cœur parce que nous voyons dans ce don de Dieu un éclat qui est sans pareil. Parce que Dieu fait éclater son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, encore indifférents, encore ennemis, Christ s'est donné et est mort pour nous. Et donc maintenant, nous nous glorifions même en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons maintenant obtenu la réconciliation. Et ces choses-là, frères et sœurs, ce sont les choses qui nous font donner à Jésus notre cœur. Pour faire toutes les choses qui sont justes, non pas d'un motif de notre propre justice, mais étant motivés et animés par ce don de Dieu. Et nous poursuivons dans ce message séquentiel de Dieu dans sa parole, au chapitre 6 de Romains, versets 3 et 4, 6 à 7 et 11 à 13. Romains 6, verset 3. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort? Nous avons donc été enseveli avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions, nous aussi, dans une vie nouvelle. Donc, dans cette vie nouvelle qui nous vient parce que nous avons considéré cet amour de Dieu, cette vie nouvelle n'est pas une modification, elle n'est pas une amélioration, mais c'est une transformation de notre nature parce que nous vivons l'expérience qui est manifestée à partir du verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit détruit, et que nous ne soyons plus asservis au péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et donc, par notre baptême, qui est la manifestation extérieure de ce qui nous a animés à l'intérieur, nous avons été ensevelis avec lui en sa mort, afin que, de même que lui, il est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous marchions nous aussi dans une vie nouvelle. Et en étant ensevelis dans sa mort, notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne soyons plus asservis au péché. Et verset 11, maintenant, c'est l'exhortation qui suit après ces paroles d'information. Il est écrit, vous aussi, considérez-vous comme mort au péché, mais vivant à Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel pour lui obéir en ses convoitises. Ne livrez point vos membres au péché pour être des instruments d'iniquité, mais donnez-vous à Dieu comme de morts étant devenus vivants et consacrez vos membres à Dieu pour être des instruments de justice. Donc, pour savoir si nous sommes bel et bien en Christ, si Christ est bel et bien en nous et que nous sommes approuvés de Dieu, il nous faut remplir ces conditions qui nous sont présentées ici, à la lumière de la croix du calvaire, à la lumière de l'amour complet et exhaustif de Dieu. Et donc l'apôtre nous dit que nous devons nous considérer comme morts au péché. Donc il y a une activité spirituelle, autant qu'intellectuelle, à travers laquelle et dans laquelle il nous faut faire un effort pour considérer que nous ne sommes plus vivants au péché, comme sous son emprise, mais que nous sommes sous la grâce, non pas pour abuser de la grâce, mais pour être gardés par la grâce et pour devenir son ouvrage en Jésus-Christ. Et donc, cela fait partie de notre effort pour aller à la source, pour nous examiner au cœur et trouver et prendre en nos cœurs Jésus-Christ. Et dans cet effort où nous voulons trouver et examiner si Jésus est en nous, vous voyez que ça nous éprouve parce que nous en venons à la conclusion que « mais Jésus n'a pas été en moi là, il n'a pas été en moi là ». Mais toutefois, il nous faut prendre conscience du fait que l'apôtre dit « de peur que vous ne soyez réprouvés », mais le mot « réprouvé » ne veut pas dire « de peur que vous soyez damné » ou « perdu éternellement ». Cela veut simplement dire que ce que vous êtes en train de faire, si vous persistez dans cette attitude, dans ce comportement, dans cette expérience religieuse, vous ne serez pas approuvé de Dieu et donc vous ne formerez pas un caractère à l'image de Dieu et donc vous êtes sur la large route. Vous ne marchez pas sur les traces de Jésus. Mais Dieu ne nous abandonne pas à nous-mêmes, mais il nous dit « Celui qui vient à moi, je ne le chasserai point ». Donc si nous venons à lui et nous lui disons « Mais Seigneur, je n'ai pas fait ça là, et je n'ai pas fait ça là, et je me suis examiné, et tu m'as éprouvé, et je ne réussis pas à cet examen, Seigneur. » Eh bien, nous ne voulons pas nous décourager, mais nous voulons prendre courage dans ce que nous avons lu dans Romains chapitre 5. Parce que Dieu fait éclater son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et donc, nous avons maintenant obtenu la réconciliation. Et qu'est-ce que nous faisons? Parce que nous voyons, nous entendons, nous comprenons, nous croyons qu'il nous réconcilie dans sa miséricorde. Nous nous glorifions même en Dieu. Et Dieu va nous glorifier. Il nous justifie et il va nous glorifier. Et nous nous glorifions même en Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons maintenant obtenu la réconciliation. Vous voyez, la Bible, la parole de Dieu est magnifique parce que c'est la parole audible à notre cœur de Dieu. Et Dieu nous parle. Nous faisons une expérience où Dieu nous parle. Et si nous sommes prêts à nous dévêtir, nous dépouiller de cette religion légaliste et froide qui est dépourvue d'amour et qui est sans Christ et qui n'amène pas les âmes à Christ, et que nous voyons notre terrible manque, parce que sans cette religion légale de notre propre justice, nous sommes comme nus devant Dieu, eh bien Jésus nous sourit. Et Jésus est heureux. Et Jésus dit, quand bien même si tu es froid et tu réalises que tu étais pas bouillant mais froid, je te reçois. Mais ne sois pas tiède. Ne sois pas tiède. Et si nous avons réalisé que nous étions tièdes, terriblement tièdes, légalistes et froids, il peut aussi nous recevoir. Si nous répondons à cet appel d'Apocalypse chapitre 3 au verset 20, où il dit « Voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Christ Jésus sera en moi et je serai en lui. Et pour conclure notre méditation d'aujourd'hui, nous allons dans Romains chapitre 8, à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. Et cela vient conclure et compléter et suivre ce que nous avons lu précédemment. Car ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Car l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et en effet, elle ne le peut. Or, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes point dans la chair, mais dans l'esprit. S'il est vrai que l'esprit de Dieu habite en vous, or, si quelqu'un n'a point l'esprit de Christ, celui-là n'est point à lui. Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vivant à cause de la justice. Et vous savez, c'est très intéressant parce que je me suis toujours demandé, mais à cause de quelle justice? Et très souvent, quand nous ne laissons pas la Bible s'interpréter elle-même, mais que nous nous efforçons d'interpréter la Bible par notre propre raisonnement intelligent, nous passons à côté du message. Mais quand nous allons dans le verset 3 à 4, nous lisons la réponse. Car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu l'a fait en voyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, si Christ est en nous, le corps est bel et bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vivant à cause de la justice, parce que ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu l'a fait en voyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Il a condamné le péché dans la chair afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Et donc tout est intimement lié. Jésus s'est offert pour nous afin que la justice de la loi fût satisfaite. Et pour qu'elle soit satisfaite en nous, il nous faut marcher, non selon la chair, mais selon l'esprit. Et nous avons lu au cours de nos méditations que marcher selon l'esprit, cela signifie également répondre à l'appel de la justification. Et dans la continuité de la sanctification où Dieu promet de nous glorifier, c'est-à-dire de nous rendre conformes à l'image de son Fils, nous sommes appelés à nous considérer nous-mêmes comme morts au péché, à nous affectionner aux choses de l'Esprit, et en nous considérant comme morts pour l'amour qu'il nous a manifesté, nous nous affectionnerons aux choses d'en haut, nous lui donnerons à chaque instant nos affections, et avec une telle activité palpitant en nos cœurs, nous chercherons davantage à apprendre en quoi nous avons besoin de lui rendre gloire. Donc nous continuerons à lui demander de répondre à notre prière qui est « Sonde-moi, ô Dieu, éprouve mon cœur et connais mes pensées et fais-moi voir si je suis dans une voie d'injustice et conduis-moi dans la voie de l'éternité. » Il répondra à cette prière, à cette supplication, si nous revenons sur l'activité que nous avons méditée aujourd'hui, c'est-à-dire d'être en Christ, en le recevant en nous. Donc pour reconnaître véritablement que Jésus est en nous, il nous faudra repasser par cette expérience et Jésus et la parole. Donc, en considérant la parole, nous recevons Jésus en nous, mais il faut que ce soit la parole vivante, la réalité vivante de la parole que nous recevons, non pas simplement une religion légale et froide. Et à ce moment-là, nous le ferons pour lui. Nous nous considérerons comme morts pour lui, parce que l'amour qu'il nous communique nous anime, parce que l'amour de Dieu en Jésus-Christ nous contraint. Et à la lumière de tout cela, frères et sœurs, nous poursuivrons par la grâce de Dieu nos méditations où nous chercherons tous les aspects de l'inspiration qui sont à prendre en compte dans cet appel à la gloire de Dieu. Parce que, comme il est écrit dans Apocalypse 14, l'appel c'est « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Donc, puisse son amour être l'élément motivateur dans nos efforts pour rendre à Dieu la gloire, pour lui donner la gloire en ce jour du jugement. Et frères et sœurs, c'est ma prière que nous répondions à l'exhortation de l'apôtre en nous considérant comme morts au péché, en ne nous livrant point à la convoitise, mais en nous donnant à Dieu comme de morts étant devenus vivants et en consacrant nos membres à Dieu pour être des instruments de justice. Amen.